L'année 2023 va bientôt se terminer et l'année 2024 est là tout près. Et j'imagine que chacun de nous est là à se demander, avec plus ou moins d'intensité bien sûr, qu'est-ce qui m'attend dans cette nouvelle année qui pointe son nez ? Est-ce que je vais enfin tenir mes résolutions de nouvelle année, si j'en fais ? Est-ce que toutes ces aspirations qui ont été les miennes l'an passé et qui sont restées sans réponse vont enfin trouver un accomplissement en 2024 ? Et toutes sortes de questions de ce genre. De quoi l'année 2024 sera faite ? Je vous invite à lire dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, les versets 1 à 8. Alors on va parcourir aujourd'hui les versets 1 à 17, mais nous nous concentrons dans un premier temps sur les versets 1 à 8. Le texte est affiché ici. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose sous le ciel. Un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour abattre et un temps pour soigner. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. Sous la forme de ce poème, ici, l'Ecclésiaste aborde la question de notre rapport au temps, les temps qui composent notre journée, notre semaine, notre année, notre vie, le temps qui nous échappe, surtout quand on manque de temps, ou inversement, le temps qui semble s'étirer quasi à l'infini lorsqu'on passe en particulier par des moments difficiles, par des épreuves, par la maladie, et là on aimerait que le temps soit plus court. Faisons quelques remarques sur ce poème. Nous avons ici une description des divers temps qui composent notre vie, avec ce refrain « un temps pour ». Un refrain qui revient 28 fois. Une manière de dire que la vie est comme une sorte de grande mosaïque de temps qui se suivent, qui durent plus ou moins longtemps, qui viennent, qui partent, qui reviennent, et ainsi de suite. Notons que ces temps ne sont pas nécessairement cloisonnés. Il peut y avoir des temps qui se chevauchent les uns les autres. Un refrain qui revient 28 fois, mais si on veut être plus précis, l'Ecclésiaste a pris soin de présenter les choses en 14 paires. 14 paires, chaque paire disant bien souvent quelque chose et son contraire. Par exemple, au verset 4, un temps pour pleurer, un temps pour rire, ça forme une paire. Au verset 7, un temps pour se taire, un temps pour parler, encore une autre paire. 14 paires, 14, le double de 7, on sait dans la Bible que le chiffre 7 désigne la plénitude, autant dire ici 14, c'est comme pour englober toute notre activité dans ces 14 paires de temps. De ce poème, on peut dresser plusieurs constats. Premier constat, notre existence est marquée par le manque de permanence. On a cela dans plusieurs pères, hein, enfanter, mourir. Par exemple, c'est une père, on peut donner la vie, mais on ne peut pas la retenir indéfiniment. Il y a un jour où il faut mourir. Planter et arracher, c'est un cycle sans fin. Il faut toujours recommencer, planter, récolter, arracher pour replanter encore la saison suivante. Démolir et construire. Vous voulez construire une maison, il faut d'abord commencer par démolir ce qu'il y avait avant sur le terrain pour ensuite construire la maison. Et puis quelques années plus tard, vous vous dites, il y a 10 ans en arrière, elle était neuve, mais maintenant il faut refaire, il faut démolir pour refaire du neuf, et ainsi de suite, démolir, construction, démolition, construction. Il n'y a pas de permanence, il n'y a pas de pérennité dans notre action, dans notre activité. Une autre paire, jeter des pierres et ramasser des pierres. Les choses qu'on fait ne durent pas. J'imagine ça vous est tous arrivé de voir une route refaite à neuf, et puis dans l'année qui suit, il faut déjà démolir pour intervenir, faire une grande tranchée pour faire passer quelque chose, ou intervenir et réparer une anomalie. Mince, on ne peut pas tout prévoir. Manque de pérennité, manque de permanence. Qui permet de faire le lien aussi avec un deuxième manque, le manque de prévisibilité. Nous ne maîtrisons pas le temps et les circonstances de notre vie. Les temps qui composent notre vie nous apportent du bon, mais pour l'enlever ensuite et souvent sans que ce soit prévisible. On le retrouve dans plusieurs pères qu'on a déjà mentionnés, enfanter, mourir, pleurer, rire, se lamenter, danser. On aimerait toujours rire, on aimerait toujours danser, on aimerait toujours être en vacances, on aimerait toujours être le 31 décembre au soir, on aimerait que le temps s'arrête sur de tels moments. Mais combien de soirées commencent dans la joie, dans la festivité, et se terminent par un accident de voiture ? Par exemple, ou moins gravement, mais pas très sympathique quand même, se termine par une gastro. J'ai souvenir d'un Noël avec 25 personnes, la gastro avait sévèrement sévi. Mais ce n'était pas prévisible. On se souvient aussi de la tempête 1999, qui a sévi pendant plusieurs jours entre Noël et Nouvel An. C'était imprévisible, en tout cas dans tous les dégâts que ça pouvait faire. Et la fête a été troublée, au point que les rires et les danses ont laissé la place aux pleurs et aux lamentations. Il y a un manque de prévisibilité à notre action, à notre existence. Il y a également, troisième constat, notre existence est marquée par un manque de simplicité. On le retrouve là aussi dans plusieurs pères. Un temps de guerre, un temps de paix. Les temps de guerre, on ne les choisit pas. La vie est encore plus dure pour ceux qui passent par des temps de guerre. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. On aurait d'ailleurs ici attendu quelque chose comme un temps pour chercher puis un temps pour trouver. Mais là, il s'agit de chercher et parfois se rendre à l'évidence qu'on finit par ne jamais trouver. Et on a connaissance de telle ou telle découverte que des chercheurs dans des institutions ont pu mener et faire, mais on n'a pas connaissance de toutes les recherches qui ont été faites, mais qui n'ont jamais abouti. Celles-ci, on n'en parle pas, et pourtant, elles existent bel et bien. Une autre paire encore, embrasser et s'éloigner des embrassades. On noue des amitiés, mais pour combien de temps ? Je me souviens d'un échange il y a peu avec une personne qui me disait sa joie d'avoir des petits-enfants, mais paradoxalement aussi sa souffrance de voir ces mêmes petits-enfants partir à l'étranger pour des études ou pour y vivre. Il y a un temps pour les embrassades et puis il y a un temps pour s'éloigner des embrassades. Si nous remontons 4 ans en arrière, en janvier 2020, qui aurait pensé que trois mois plus tard, nous serions tous, chacun chez soi, confinés par la force des choses et être obligés d'être éloignés des embrassades. Et cela pendant plusieurs mois. On aimerait que la vie soit plus simple. On aimerait qu'on clique sur un bouton et puis hop, l'écran passe en 16/9. Petit clin d'œil à la technique. C'est pas toujours si simple. C'est pas toujours si simple. Et tout cela nous renvoie à la dure réalité de la vie. Et par conséquent, l'Ecclésiaste pose la question tout en bas du poème, en bleu ici, là, au verset 9. Il pose cette question, mais alors quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne ? Si on ne peut pas avoir la naissance sans la mort, la santé sans la maladie, le rire sans les larmes, alors on peut s'interroger avec l'Ecclésiaste. La vie vaut-elle vraiment la peine d'être vécue ? Y a-t-il un avantage quand même ? Quel est le sens de notre activité ? Quel est le sens finalement de notre vie ? Est-ce que c'est ça la vie, ce manque de pérennité, ce manque de permanence, ou ce manque de prévisibilité, ce constat qu'on ne maîtrise rien, ce manque de simplicité, ce constat que la vie est dure ? Est-ce que c'est ça la vie ? Arrivé là, on pourrait être tenté de voir le verre à moitié vide, ou de voir le verre entièrement vide d'ailleurs, et de ne percevoir dans cette alternance de contrastes entre bonheur et malheur qu'une description très pessimiste de notre vie. Mais notre existence, on peut le voir aussi avec ce poème, notre existence est marquée par... Ça ne veut pas venir. Petite aide de la technique peut-être, juste voilà. Notre existence est aussi marquée par des notes d'espérance. On a remarqué tout à l'heure qu'il y a 14 paires de temps et les différentes paires sont organisées selon deux modèles. On a un modèle où on part du positif pour aller vers le négatif. Par exemple, un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Embrasser, s'éloigner des embrassades, chercher... Pour perdre, on passe du positif vers le négatif. Et ça pourrait signifier que toutes les réalités positives se trouveraient finalement aspirées par celles qui sont négatives. Mais il y a un second modèle où c'est l'inverse. Dans des paires, on part de ce qui est négatif pour aller vers le positif. Par exemple, démolir, construire. Pleurer, rire. Guerre, paix. Et cela suggère que la vie contient des ressources pour espérer. L'Ecclésiaste n'a pas présenté les 14 paires uniquement avec le premier modèle, on part du positif et on arrive au négatif à chaque fois, parce que alors là, ce serait vraiment désespérant. Mais en même temps, il n'a pas présenté les choses en partant toujours du négatif pour aller vers le positif. Si on regarde l'ensemble des 14 paires, on est à peu près à l'équilibre. Une manière de dire que ce qui est bon et ce qui est mauvais se succèdent, tantôt dans un ordre, tantôt dans un autre. Gardons-nous de ne voir ici qu'un poème aux traits bien tristes et pessimistes. D'ailleurs, il ne faudrait pas nous arrêter à ce poème, car on aurait tendance à oublier qu'il y a une suite, et on va la découvrir dès maintenant, et je vous invite à suivre la lecture des versets 10 et 11. J'ai considéré l'occupation que Dieu donne aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Aussi, il a donné dans leur cœur la notion de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Nous lirons la suite un petit peu plus tard. L'Ecclésiaste place notre existence, qu'il vient de décrire avec le poème des versets 1 à 9, dans le cadre de l'action de Dieu qu'il commence à décrire maintenant, dans les versets 10 jusqu'à 17. D'ailleurs, Dieu, dans ces versets et dans d'autres qui vont suivre, devient le sujet des verbes. C'est Dieu qui est acteur ici. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de Dieu dans ce contexte et en particulier de son action ? Premièrement, Dieu nous veut dans le temps, c'est ce qu'on voit ici au verset 10, j'ai considéré l'occupation que Dieu donne aux hommes de s'appliquer. Cette activité humaine que nous vivons, avec toute sa diversité, avec tous ses paradoxes, tous ses tout et son contraire, eh bien, c'est cette activité que Dieu nous donne. Il ne nous faut pas y renoncer. C'est Dieu qui nous donne cela. Il nous donne cette occupation, même si, comme on l'a vu au verset 9, le bénéfice nous laisse un peu insatisfait. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas Dieu qui a voulu cela dès le commencement. Hein. Nous vivons dans un monde qui est marqué par le péché, et la condition humaine, elle est la conséquence de l'entrée du péché dans le monde depuis Genèse chapitre 3. Mais au sein de cette occupation que Dieu nous donne, il y a le verset 11. Dieu fait toute chose belle en son temps. Alors décomposons cette phrase. Tout d'abord, Dieu fait. Dieu agit. Il est à l'œuvre. Dieu crée le monde. Il a créé le monde et il continue d'interagir avec ce monde qu'il a créé. Et dans son interaction, on voit qu'il fait toute chose belle. On aurait d'ailleurs attendu ici, parce qu'on a en tête le récit de Genèse 1, la création que Dieu a faite, on aurait attendu que l'Ecclésiaste dise « Dieu fait toute chose bonne ». En écho à Genèse 1, il vit que c'était bon, et ainsi de suite. Et au verset 31 de Genèse 1, il trouva que c'était très bon. Mais ici, il utilise un autre qualificatif. L'œuvre, l'action de Dieu est belle. Pourquoi cela ? Parce que dans le livre de l'Ecclésiaste, ce qui est bon est réservé à l'être humain à propos du bien limité dont il peut jouir dans la vie présente. C'est ce qu'on verra avec le verset 12 et 13. Il n'y a rien de bon pour l'homme, sinon de... etc., etc. Il n'y a rien de bon. Le bon est réservé à l'activité humaine et au plaisir qu'il peut avoir, le plaisir limité. On va en reparler dans un moment. Par contre, l'action de Dieu, elle n'est pas limitée. Et l'Ecclésiaste emploie cet autre mot, ce qualificatif « belle » pour décrire l'action de Dieu. Et cette beauté de l'action de Dieu englobe ce qui est bon, mais est bien sûr beaucoup plus large. Donc Dieu fait toute chose belle en son temps. Dieu agit à sa manière. On pourrait dire que Dieu agit un peu comme un peintre impressionniste qui va appliquer sa peinture dans un ordre bien précis par petites touches dont lui seul a le secret. Si vous regardez un trait de pinceau tout seul, ou même quelques traits, vous ne voyez pas l'ensemble. Et c'est difficile de se faire un avis. Il faut prendre du recul et considérer l'œuvre de Dieu dans son ensemble. On va y revenir d'ailleurs dans un instant. Dans ce monde dans lequel nous vivons, qui est marqué par la souffrance, par le mal, par bien des choses difficiles souvent, Dieu est présent, il agit. Il est capable de faire du beau, du bon, du bien. Et ça ne s'arrête pas là. Au verset 11, qui est affiché encore ici, Dieu a mis en nous la notion de l'éternité. La traduction proposée ici fait ressortir que c'est le même verbe qui est employé au verset 10 et au verset 11. « J'ai considéré l'occupation que Dieu donne aux hommes de s'appliquer et il a donné dans leur cœur la notion de l'éternité. » C'est Dieu qui nous a donné de nous appliquer à cette occupation dont il a parlé au verset 1 à 9. Mais il nous a donné aussi la notion de l'éternité. Autrement dit, il a placé dans notre cœur, dans la pensée de tout être humain, la conscience qu'il y a bien plus que toutes les réalités qui sont décrites dans ce poème. Il y a quelque chose de plus. Ça nous fait prendre conscience, cette notion de l'éternité, que quelque part, il y a de la permanence. Il y a des choses qui durent. Quelque part, il y a de la prévisibilité, il y a un temps maîtrisé. Quelque part, il y a une simplicité, c'est-à-dire une vie moins dure. Quelque part, il y a l'éternité. Et l'être humain aspire à cela. Le verset 11 continue. sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Dieu agit sans qu'on puisse saisir son œuvre dans son ensemble, parce que son œuvre s'inscrit dans toute l'éternité et nous ne pouvons pas saisir l'ensemble, la totalité, pour bien l'appréhender. Nous n'étions pas là quand Dieu a commencé son action. Et de même, nous ne voyons pas encore l'aboutissement de son action. Nous ne pouvons voir que des traits de peinture qui touchent ici à notre existence ou à quelque chose du passé dont on a connaissance. Mais on ne peut pas encore prendre le recul nécessaire pour voir toute son action. On ne peut pas tout saisir de son œuvre. Ceci étant, cela ne doit pas nous faire douter que Dieu est aux commandes et qu'il fait toute chose belle en son temps. L'œuvre de Dieu continue avec les versets 12 et 13. « Je sais qu'il n'y a rien de bon pour l'homme hormis se réjouir et faire ce qui est bon pendant sa vie. » Et aussi que si un homme mange, boit, prend du plaisir dans tout son labeur, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Dieu nous fait jouir de bonnes choses. Il y a le plan ici qui s'affiche aussi pour tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. C'est le second refrain dans ce livre sur l'Ecclésiaste. Nous nous souvenons peut-être il y avait déjà eu un premier refrain sur le bonheur à la fin du chapitre 2. Et nous avons ici, avec les versets 12 et 13, un second refrain, une invitation à saisir, à profiter de ces bonnes choses que Dieu nous donne. Nous y reviendrons tout à l'heure dans les applications. Sixièmement, Dieu agit et son œuvre durera toujours, avec les versets 14 et 15. Hop, voilà. Voilà. Je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher. Et Dieu agit en sorte qu'on le craigne. Ce qui est aujourd'hui a déjà été dans le passé et ce qui sera dans l'avenir a déjà été dans le passé. Oui, Dieu fait se reproduire ce qui appartient au passé. Dieu n'est pas tributaire de notre manque de permanence. Son action à lui, dans son ensemble, elle est parfaite, elle est complète. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Et enfin, septièmement, Dieu rétablira la justice en son temps par un juste jugement. C'est ce que nous lisons avec les versets 16 et 17. « J'ai encore vu sous le soleil qu'à l'endroit désigné pour le droit, eh bien là est la méchanceté, et qu'à l'endroit désigné pour la justice, là est la méchanceté. » Je me suis dit dans mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car pour toute chose et pour toute activité, il y a un temps pour le jugement. On peut se poser la question, comment est-ce possible que l'Ecclésiaste dit que Dieu fait toute chose belle en son temps et qu'en même temps, on n'a pas toujours l'impression que Dieu intervient pour mettre fin, pour stopper le mal qui se développe parmi les humains et toutes ces injustices qui se commettent. Mais l'Ecclésiaste nous dit, « Tout comme Dieu fait toute chose belle en son temps, Dieu interviendra en son temps pour rétablir la justice. » Il est le juste juge. Et d'ailleurs, notez au verset 16, il est question, là j'ai encore vu « sous le soleil », cette mention « sous le soleil », dans le livre de l'Ecclésiaste, ça sert à décrire la vie sur terre, la condition humaine telle que nous la vivons, avec les limites que nous connaissons, aussi avec les injustices qui se pratiquent. Mais Dieu est au-dessus du soleil. Il n'est pas sous le soleil. Il est au-dessus. Il est le juste juge. Et dans ce monde marqué par le mal, où même les tribunaux eux-mêmes, comme on le voit au verset 16, ne sont pas exemptes de méchanceté, d'injustice, eh bien, l'aboutissement du dessein de Dieu, du projet de Dieu, inclura un temps pour le jugement de toute œuvre, de toute action, en vue de rétablir la justice. Je propose de terminer avec quatre applications. pour l'ensemble de ce texte que nous avons vu, les versets 1 à 17. Premièrement, intégrons tous les temps qui font notre vie. J'ai l'impression que pour beaucoup de gens, la vie n'est réellement vécue que dans ces grands moments qui forment l'existence. Ces moments où on a l'impression d'avancer, de progresser, de se réaliser. Ces moments qui comptent, ces moments où on est dans la festivité, dans la joie, dans le rire, dans les embrassades. Il suffit d'ailleurs de voir les réseaux sociaux de ces derniers jours. Chacun y va de ses vidéos, de ses photos pour retracer le grand moment qu'a été Noël. Et il en sera de même demain pour revenir sur cet autre grand événement qu'est le passage du 31 au 1er janvier. Un grand moment se termine et voilà qu'on est déjà en train de se tourner vers le prochain grand moment qui nous attend dans le calendrier. Et on s'y prépare fébrilement. Et en fait, tout ce qu'il y a entre les deux, c'est la routine du quotidien. On ne le considère pas. Ça n'a pas d'importance. C'est un peu, bien souvent, ça se résume dans ces temps un peu négatifs qui sont mentionnés dans le poème dont on a parlé tout à l'heure. C'est le cas pour beaucoup de raisonner de cette manière-là, en fonction des grands moments de l'existence. Inversement, il y a des personnes qui vont avoir tendance à se focaliser tellement sur les choses négatives qu'ils ne verront pas les autres moments qui, eux, sont bien plus joyeux et qui sont pourtant là, mais qui sont occultés par les pleurs, par les lamentations, par la dureté de la vie. Et je crois que ce texte de l'Ecclésiaste nous invite à intégrer dans notre vie tout, j'insiste bien, tous les temps qui composent notre vie. Les positifs comme les négatifs. Et que les négatifs ne viennent pas occulter les positifs, car il y en a. Et cela m'amène à une deuxième application. Accueillons et apprécions les plaisirs limités que Dieu nous donne dans sa grâce. Je réaffiche les versets 12 et 13, ici en bleu. Un homme mange, boit, prend du plaisir dans tout son labeur, c'est un don de Dieu. Il n'y a rien de bon pour l'homme, hormis se réjouir et faire ce qui est bon pendant sa vie. Ça peut être des plaisirs matériels, comme au verset 13 ici, le manger, boire, avec modération, hein, attention ce soir. Hein. Peut-être aussi des plaisirs intellectuels, même dans notre activité professionnelle, dans notre labeur. Il y a des bonnes choses et il y a des joies aussi à vivre. J'ai eu beaucoup de joie à préparer cette prédication, par exemple. Et peut-être que quand vous retournerez à votre travail début janvier, que ce soit mardi ou dans une semaine, vous aurez aussi de la joie dans tel ou tel aspect de votre activité, et je vous le souhaite. Ça peut être des loisirs, partir en vacances, pratiquer son sport préféré, jardiner, point de suspension. Il y a une certaine consistance dans toutes ces choses et sachons en jouir, sachons les apprécier, mais sans tomber dans l'illusion pour autant. À la question que l'Ecclésiaste pose au verset 9, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne? Eh bien, Dieu fait une réponse ici. Dieu nous donne des choses belles dans sa grâce, dans sa bonté, afin qu'on en profite, qu'on en jouisse. Apprenons à les recevoir avec reconnaissance et aussi dans le contentement. Le même Dieu qui nous a enseigné à prier pour demander le pain de ce jour dans la prière du Notre Père nous invite ici à accueillir la grâce de ce jour. Et d'ailleurs, le pain, la nourriture qu'il nous donne, fait partie de ces grâces qu'il nous donne. Donc, sachons aussi le remercier pour cela. Troisième application, à chaque temps suffit sa peine ou sa joie. Qu'est-ce que je veux dire ici? Si je passe par le deuil, pour donner un exemple, eh bien je suis invité à me donner le temps qu'il faut pour cheminer, pour traverser ce deuil. Parce que ce deuil est là, il fait partie de ma vie, il a sa valeur, il a son importance, il en fait partie. Si je passe par un temps de joie, que j'ai reçu une bonne nouvelle, que je suis entouré de mes proches pour le 31 décembre, ou que sais-je, eh bien je suis invité à recevoir humblement cela comme une grâce que Dieu me donne pour me réjouir, sans illusion non plus, hein. Au temps de l'embrassade, eh bien, accueillons le plaisir qu'il y a à retrouver ses proches. Et puis viendra un moment, peut-être, où il faudra s'éloigner des embrassades et voir repartir des proches qui sont venus pour festoyer pour les fêtes. Je vois qu'il y a plusieurs visages aujourd'hui qui nous rendent visite, des personnes qui sont là pour la fin d'année et qui, demain, après-demain ou prochainement, vont retourner vers chez elles. Et ce sera le lieu de s'éloigner des embrassades. Pas toujours simple. Accueillons aussi le départ d'un proche qui part pour vivre à l'étranger. Parce que peut-être que c'est un plaisir que Dieu lui donne pour lui. Et sachons aussi accueillir cela et respecter cela. Au temps où il faut démolir, c'est aussi peut-être pour reconstruire du neuf, du mieux derrière. Souvenons-nous que tout n'est pas négatif. Il y a aussi ces notes d'espérance dont nous avons parlé tout à l'heure. Tel jour, on arrache, mais c'est pour replanter le lendemain et avoir des fruits le surlendemain, et ainsi de suite. À chaque temps suffit donc sa peine ou sa joie. Enfin, une dernière application, et qui peut-être est la plus importante. Aujourd'hui, c'est le temps de la confiance en Dieu. Quel que soit le temps par lequel nous passons, c'est le temps de nous ouvrir à l'action de Dieu dans notre vie. Cette action dont on a vu qu'elle est belle, cette action est en train de s'accomplir dans notre vie. Aujourd'hui, c'est le temps de craindre Dieu. Le verset 15 nous a invités à craindre Dieu. Si les choses se passent ainsi, c'est pour qu'on se tourne vers lui et qu'on le craigne, qu'on lui exprime notre profond respect, qu'on lui exprime notre obéissance. Lui, le Dieu souverain, est si grand. Il mérite ce si grand respect. Il mérite qu'on le craigne. Nous ne voyons pas encore tout ce que Dieu est en train de peindre sur l'ensemble de sa toile, mais il est à l'œuvre. N'en doutons pas. N'en doutons pas. Notre réalité ne se résume pas à ces versets 1 à 8 et ce poème, somme toute avec sa succession de contrastes, et on ne sait pas toujours quoi en faire. Nous ne sommes pas ballottés au gré des vents et des circonstances par le plus grand des hasards à nous demander à quel temps on va être croqué. Non, Dieu est là, il est aux commandes, et il y a quelque chose de rassurant ici, de savoir que Dieu pilote le navire. Aujourd'hui, c'est le temps de la confiance en Dieu. Posez-vous les questions suivantes. Par quel temps passez-vous en ce moment? Est-ce que vous pouvez affirmer au plus profond de vous que Dieu fait toutes choses belles en son temps? Est-ce que vous pouvez sereinement vous reposer sur Dieu, vous abandonner à lui, vous confier en lui, comme nous sommes invités à le faire? À quelques heures du compte à rebours auquel nous allons tous nous prêter à 23h59 et 50 secondes, plutôt que de s'interroger et de se poser la question de quoi cette nouvelle année 2024 sera faite, nous sommes invités plutôt à affirmer avec confiance, avec sérénité et paix que cette nouvelle année 2024 sera faite. Elle sera faite car chaque jour, Dieu est à l'œuvre, déroulant fidèlement son dessein, son projet. Chaque jour sera l'occasion de discerner un peu plus, de découvrir un peu plus l'œuvre belle qu'il est en train de faire dans ma propre vie, dans la vie de ceux qui m'entourent, dans le monde. Chaque jour, nous pouvons garder confiance en Dieu. Il est présent, il est fidèle, il est souverain. Il fait toutes choses belles en son temps. Et viendra aussi un jour où il rétablira la justice. en son temps, par un juste jugement. Lui, le juste juge. Que cette année 2024 soit faite, de l'orthographe en bleu ici, dans la présence et sous les bons soins de notre Seigneur. Amen.